Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du CESA, le Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec le Normandie-Niemen sur une musique de l'adjudant Christian Caligaro et un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi. Le 20 juin 1945, c'est le retour des héros. Le régiment de chasse Normandie-Niemen rentre en France à bord des yaks offerts par Staline le 1er juin 1945. Après 5420 missions de guerre, durant lesquelles les pilotes français se sont couverts de gloire, cette unité est accueillie triomphalement sur la piste du Bourget.
En ce 15 juin 1945, je m'installe dans le cockpit de mon yak pour accomplir mon ultime mission aérienne. En effet, nous, les pilotes du Normandie-Niemen, nous retournons en France par le même chemin que celui emprunté par les grognards de Napoléon lors de la retraite de Russie. Nous ne sommes plus cependant, comme l'écrivait Victor Hugo, une procession d'ombres sous le ciel noir, pourchassée par des Cosaques, mais des aviateurs français qui volent sur une monture soviétique offerte par Staline en guise de remerciement pour nos exploits accomplis sur la terre russe. Ce même Staline qui, en décembre 1944, embrassait à la russe notre chef, le commandant Pouillade. Nous décollons du terrain d'Elbing, en Prusse occidentale, pour Prague. Deux avions de transport nous accompagnent avec les mécaniciens soviétiques dédiés à la maintenance. Le 19 juin, nous sommes à Stuttgart, où nous attend le général Delattre de Tassigny, commandant de la 1ère armée. Lors de cette cérémonie, nos alliés découvrent pour la première fois l'agilité de notre yak. Cet avion associe astucieusement des parties rustiques, un fuselage en tube d'acier soudé couvert d'une épaisse toile et des ailes en bois, avec des innovations techniques. Les pneus basse pression, des trains à large voie, des volets à commande hydraulique et des tuyauteries en aluminium. Le yak est léger comme l'oiseau et terrible comme la foudre, comme le dit l'as soviétique Vladimir Lavrinenkov. Il est notre fidèle compagnon depuis le début de notre aventure soviétique. Ainsi, lors de notre arrivée en URSS en 1942, les soviétiques nous ont proposé divers avions occidentaux, mais par courtoisie et séduit par les qualités de ce moujik des airs, nous avons choisi le yak. Cet avion du Normandie, qui porte une cocarde tricolore sur la casserole de l'hélice, est d'un bleu-gris qui rappelle le ciel de sa Russie natale. Sur ses flancs sont peints un éclair blanc, emblème de la 303e division aérienne de chasse soviétique, et le blason rouge et or de la Normandie. Cette peinture symbolise à merveille la coopération entre les pilotes français et les mécaniciens soviétiques. Ces derniers admirent ces Gaulois qui exécutent en vol des figures excentriques et qui sont venus se battre si loin de leur patrie. Mon ami Lefebvre leur répondait alors « Je suis exilé et condamné à mort dans mon pays par un régime fasciste. Il serait de la plus absurde hérésie que je ne sois pas un combattant pour l'humanité. » Au matin du 20 juin 1945, nous arrivons à Saint-Dizier. Je vole à présent au-dessus de la France. Il règne dans la formation un silence religieux. Il faut dire que nous revenons de l'enfer. En effet, depuis mars 1943, date de notre première opération, nous avons livré 869 combats aériens pour 273 victoires officielles et 37 probables. Les pilotes du Normandie ont effectué 5240 missions de guerre en 4354 heures de vol. Parfois, nous devions faire jusqu'à 5 missions par jour. On pouvait ainsi escorter des bombardiers, intercepter des chasseurs, mitrailler des objectifs au sol et même parfois réaliser des missions de liaison. Sur les 14 pilotes de 1942, seuls 3 d'entre nous reviennent vivants. Marcel Albert, Joseph Risseau et Roland de la Poippe. Dans l'après-midi du 20 juin, je m'approche de mon avion qu'Alexandre Kapralov, mon dévoué mécanicien, astique comme un sou neuf. Il me crie « Il doit être beau pour survoler Paris !» Et oui, nous allons voler au-dessus de Paris. Je me rappelle de la fête que nous avons faite pour sa libération le 25 août 1944. Mais en ce jour spécial, je pense aux 96 pilotes de chasse, aux deux pilotes de liaison, aux médecins, aux quatre interprètes, à notre secrétaire et à nos 42 mécaniciens français puis soviétiques qui ont participé aux campagnes aériennes du Normandie-Niemen. Nous survolons les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Que cette ville est belle vue du ciel! Mais comme c'est étrange de voir tous ces immeubles debout quand nous survolons depuis tant d'années des villes en ruine. Dans la radio, j'entends des cris de joie. Il y a aussi le silence et des larmes qui trahissent une profonde tristesse en souvenir des 38 camarades qui sont tombés là-bas, à l'est. Certains, comme Lefebvre, reposent au cimetière de la Présentation à Moscou, aux côtés des soldats napoléoniens. Il y a aussi ceux dont le corps n'a jamais été retrouvé, comme celui de notre ancien commandant Jean Tulane. Je repense enfin à Dessen qui, en juillet 1944, a préféré périr dans son avion en feu plutôt que d'utiliser son parachute, comme lui ordonnait son chef, et d'abandonner son mécanicien Belozub coincé dans la soute de l'avion. Nous survolons à présent la piste du Bourget. En formation militaire, en tête, le colonel Delfino, qui est notre commandant depuis le 12 décembre 1944. Je me pose en douceur et malgré le ronronnement du moteur Klimov, j'entends la clameur de la foule venue nous accueillir en masse. J'ouvre ma verrière et j'aperçois le colonel Delfino, les capitaines Amargé, Moinet, Cuffaut, les sous-lieutenants André, Sauvage, Perrin, Émonier, De Geoffrey, Fetzer et Herzizen. Je ne peux tous les citer, mais à eux seuls, ils totalisent 101 des 273 victoires que compte notre régiment de chasse. Au loin, j'aperçois les chefs mécaniciens soviétiques, Argavelian, Korneliev et Filipov, qui descendent de l'avion, émus et heureux. Munis de bouquets de fleurs, nous formons, Russes et Français, une ligne pour admirer les acrobaties aériennes de Robert Marchi et de Georges Lemar. Nous arborons fièrement nos médailles soviétiques, agrafées sur nos uniformes bleus, avec la croix de Lorraine posée au-dessus de l'aile de poitrine. L'ambassadeur du RSS, Bogomolov, remet à notre drapeau, porté par Jacques André, l'ordre du drapeau rouge en présence de Charles Tillon, ministre de l'Air, du général Catroux, ambassadeur de France à Moscou, du général Koenig, gouverneur militaire de Paris, et des généraux Bousca et Valin. Le capitaine André s'écroule, rongé par la fièvre. Le lendemain, une prise d'armes nous attend, sur le terrain d'aviation d'Issy-les-Moulineaux, au cours de laquelle les colonels Pouillade et Delfino, ainsi que le capitaine Albert, reçoivent la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Dans l'après-midi, dans la cour d'honneur des Invalides, le ministre de l'Air remet au Normandie son drapeau avec la fourragère de la Légion d'honneur. Les aviateurs soviétiques se voient décerner la fourragère rouge par le général Valin. À l'issue, une délégation d'aviateurs des deux armées se rend sous l'Arc de Triomphe. Avant de rentrer chez moi, je feuillette une dernière fois le journal de marche des opérations sur lequel le général de Gaulle a écrit en 1944 « Sur la terre russe, martyrisée comme la terre française, et par le même ennemi, le régiment Normandie, mon compagnon, soutient, démontre, accroît la gloire de la France. » Aujourd'hui, cette formation peut s'enorgueillir d'être l'unité française la plus titrée. J'aperçois Kapralov qui pose sur le fuselage du yak une tendre caresse. Avant de partir, il récite en russe un vers du poète Pouchkine. « Je vous aimais, sans espoir et sans plainte, timidement, jaloux parfois. Je vous aimais d'un tel amour sans feinte que puisse un autre aimer si bien que moi. » Il rajoute en français « Adieu, petit moujik désert, maintenant que tu es français, ne m'oublie pas ».